Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. En Côte d'Ivoire, ouverture hier à Abidjan du procès pour complot de l'ex-chef rebelle Guillaume Soro et d'une vingtaine de partisans de l'ex-premier ministre en exil. Abdourahman Diaf fera le point. En Guinée, un tribunal de Conakry a condamné hier l'influent journaliste Amadou Dioldé Diallo à une amende de 5 millions de francs guinéens pour offense au président Alpha Condé et ordonné la remise en liberté du commentateur sportif réputé et historien après presque 3 mois de prison. Il avait affirmé en février sur une radio privée que le seul projet de M. Condé était d'exterminer la communauté Peul de Guinée. Et réputée acquise à l'opposition. La nouvelle Assemblée nationale capverdienne issue des législatives du 18 avril a été installée à Praia avec pour la première fois 27 femmes députées sur 72 parlementaires. Une loi sur la parité votée en novembre 2019 impose la présence de 40% de candidats d'un genre et 60% d'un autre genre sur les listes concourant aux élections. En pleine polémique sur des propos de son homologue rwandais Paul Kagame, le président congolais Félix Tshisekedi a demandé hier dans un entretien à l'AFP que justice soit rendue aux victimes de ces crimes perpétrés il y a plus de 20 ans dans son pays. L'interview de M. Kagame, niant les crimes commis alors en RDC par des armées étrangères, a provoqué un tollé en RDC, où ses propos ont été qualifiés de négationnisme en réaction à d'hier Kigali qu'il y a eu confusion sur les propos en question. Le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné dans une déclaration adoptée hier à l'unanimité la nécessité d'accroître l'aide à l'Afrique face à la pandémie de COVID-19, notamment en matière de vaccins, jugeant insuffisante la vaccination de ce continent. L'Afrique n'a reçu que 2% de tous les vaccins administrés à l'échelle mondiale. Des milliers de personnes ont participé ce mercredi à Nouakchott à une manifestation pour dénoncer, je cite, le massacre des Palestiniens par Israël. Par ailleurs, Nouakchott a annoncé une réunion virtuelle aujourd'hui des 5 ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb arabe. Concernant le conflit entre Israéliens et Palestiniens, Paris distribue son projet de résolution à l'ONU malgré une menace de veto américain. Rosine Munezero nous donnera les détails. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Des avions de chasse israéliens ont frappé les résidences d'au moins 6 dirigeants du mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza. Chacun de ces sites abritait des infrastructures militaires selon l'armée israélienne. Dans le sud d'Israël, les sirènes avertissant de raids aériens hurlaient aux premières heures de jeudi. Le djihad islamique, deuxième groupe armé à Gaza, revendiquant une nouvelle salve de roquettes. Les tirs de roquettes sur Israël par les groupes armés dont le Hamas et les frappes aériennes israéliennes s'étaient poursuivis en soirée. Depuis le 10 mai, au moins 227 Palestiniens, dont 64 enfants, ont été tués selon le ministère de la Santé à Gaza. Et en Israël, les tirs de roquettes ont fait 12 morts selon la police. Une première rencontre constructive pour préparer le terrain à un probable sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine, les ministres américains et russes des Affaires étrangères ont affiché hier en Islande leur volonté d'apaisement, sans masquer le profond fossé qui sépare leurs deux pays rivaux. Et réunion aujourd'hui, toujours en Islande, des 8 pays riverains de l'Arctique pour un conseil aux vœux affichés de coopération pacifique, malgré les points de tension entre puissances, États-Unis et Russie en tête. Au Guatemala, au moins 7 détenus ont été tués, dont certains décapités, au cours d'un affrontement entre bandes rivales hier dans une prison de l'ouest du pays, a annoncé la police. L'État américain du Texas a exécuté hier un Africain-Américain condamné à la peine capitale pour avoir tué en 1999 sa grande tante âgée de 83 ans avant de lui voler $30 pour acheter de la drogue. Quentin Jones avait lancé un appel à la clémence au gouverneur avec une vidéo peu commune. La suite de nos informations, en Côte d'Ivoire, le procès pour complot de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro en exil et d'une vingtaine de ses partisans s'est ouvert hier à Abidjan. Une première journée marquée par une bataille de procédure. Les audiences sont renvoyées au 26 mai. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'audience s'est ouverte hier avec une heure de retard en raison d'une bousculade. Des dizaines de personnes n'ont pas pu entrer dans la salle d'audience trop petite. Guillaume Soro, 49 ans, est accusé, entre autres, de complot, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et publication de fausses nouvelles. 19 de ses partisans sont poursuivis pour les mêmes charges, dont deux de ses frères et l'ancien ministre et député Alain Lobognon, tous emprisonnés depuis un an et demi. Son avocate et ancienne ministre Afosi Bamba, en exil, est aussi poursuivi. Les accusés ont réfuté toutes les allégations. Le collectif d'avocats qui les défend a dénoncé un simulacre de procès et un règlement de compte politique. Chef de la rébellion dans les années 2000, Guillaume Soro a aidé militairement Alassane Ouattara à accéder au pouvoir. Il a été son premier chef de gouvernement avant d'être nommé au perchoir de l'Assemblée. Les deux hommes se sont brouillés par la suite jusqu'à la rupture début 2019. En avril 2020, M. Soro a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Maintenant, l'ancien allié du président Ouattara risque la prison à perpétuité.
Martha Karambu Koume a été nommée chef de la Cour suprême du Kenya, devenant ainsi la première femme de l'histoire du pays à diriger l'une des trois branches de l'État. Marius Muhunga nous donne des détails.
Je suis une juge qui regarde la société et les Kenyans se sentiront en sécurité avec moi, a déclaré Madame Koume lors de son audition devant les parlementaires. Cette passionnée de la défense des droits des femmes, âgée de 61 ans, prend la tête du pouvoir judiciaire du Kenya, qui est en charge du contentieux électoral, à un peu plus d'un an des élections générales. Elle succède à David Maraga, qui avait présidé l'audience historique de septembre 2017, qui avait annulé les résultats de la présidentielle et a occupé ce poste de 2016 jusqu'à son départ à la retraite en janvier 2021. Elle s'était fait un nom en défendant des prisonniers politiques durant le régime autoritaire du président Daniel Arap Moi, dont Raila Odinga, qui deviendra le chef historique de l'opposition. La nouvelle chef de la Cour suprême a promis de débarrasser le système judiciaire de la corruption et de préserver son indépendance.
La France et les États-Unis ont engagé à l'ONU un bras de fer sur le conflit israélo-palestinien. C'est la première crise ouverte entre les deux alliés depuis l'arrivée au pouvoir du président américain Joe Biden. Rosine Munezero fait le point.
Après 8 jours de blocage des États-Unis au Conseil de sécurité pour l'adoption d'une déclaration condamnant les violences au Proche-Orient, la France s'est résolue mardi à déposer un projet de résolution appelant à une cessation des hostilités et à un accès humanitaire à Gaza. Le président américain Joe Biden a quant à lui réclamé mercredi une désescalade. Nous avons été clairs et cohérents sur le fait que nous nous concentrons sur les efforts diplomatiques en cours pour mettre fin à la violence et que nous ne soutiendrons pas les actions qui, selon nous, s'apaisaient fort en faveur d'une désescalade, a dit une porte-parole de la mission américaine à l'ONU. Les tensions palpables entre la France et les États-Unis pourraient laisser des traces et affecter d'autres dossiers. Du côté des alliés européens traditionnels des États-Unis et même au-delà, c'est une incompréhension. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, est attendu aujourd'hui en Israël et à Ramallah, en Cisjordanie, pour des entretiens.
La Minute Éco, John Linden.
En Égypte, la banque digitale Telda, basée au Caire, a levé 5 millions de dollars pour son financement de prédémarrage. C'est la plus grande opération de ce genre au Moyen-Orient et en Afrique. Telda est la première banque numérique en Égypte permettant aux clients de créer un compte gratuit et bénéficier de tous les services appropriés. 45 millions d'euros, c'est la somme mise à la disposition de la République du Congo par l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale afin de soutenir ses stratégies d'aménagement du territoire et de préservation des ressources naturelles. Outre la portion congolaise, le bassin du Congo est considéré comme la deuxième plus grande forêt du monde après l'Amazonie au Brésil. L'édition 2021 du Forum économique mondial prévu à nous à Singapour n'aura pas lieu cette année à cause de la pandémie. Le lieu et la date de l'édition 2022 seront déterminés ultérieurement. Ce forum rassemble habituellement le Gotha de la politique, de la finance et de la diplomatie mondiale dans la station de Davos en Suisse.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Les équipes Pénapar, la Basketball Africa League ont commencé hier leur deuxième sortie dans la phase de groupe. Aujourd'hui, opération confirmation pour les Tunisiens de l'US Monastir face aux Nigériens de Rivers Hoopers, tombés en match inaugural devant les Patriotes dans le groupe A. Bien avant, dans le groupe B, les Camerounais de FAP feront face aux redoutables Angolais de Petro de Luanda. Dans l'autre match de cette poule B, en fin de soirée, la mission s'annonce compliquée pour les Maliens de l'AS Police devant les Marocains de l'AS Sali. Les Maliens sont conscients, mais leur coach Boubacar Kanouté estime que rien n'est encore perdu.
C'est un problème mental. C'est sûr qu'on les a mis dans le vestiaire. Il nous faut un très bon discours. C'est les jeunes. Il faut le remarquer. C'est le début. C'est pas la fin. C'est le premier là. On devait gagner. Mais si on fait, c'est pas la fin du monde. On va la remonter pour le prochain match.
Boubacar Kanouté, coach de l'AS Police du Mali. Hier, dans le groupe A, les Malgaches de GNBC se sont inclinés à nouveau dans cette balle, 72-78, cette fois-ci face aux Rwandais du Patriotes, qui enregistrent leur deuxième victoire de rang et donc assurés de disputer les quarts de finale. Pour les Malgaches, en revanche, les carottes sont presque cuites et leurs espoirs de voir les quarts de finale ne reposent plus que sur une hypothétique troisième meilleure place de l'ensemble des groupes. Dans l'autre match du groupe C, les Mozambicains de Ferroviaire de Maputo ont décroché leur première victoire dans cette balle en infligeant aux Sénégalais de l'AS Douane leur première défaite 88-74. Le dernier match de la soirée du mercredi entre le Zamalek et le groupement sportif des pétroliers d'Algérie a été reporté conformément au protocole de santé et de sécurité de la Ligue, selon ce que l'on peut lire sur le site web de la Basketball Africa League, sans autre précision. La rencontre sera reprogrammée à une date ultérieure selon la balle. Athlétisme, et nous prenons la direction de la République tchèque où se tient le meeting d'Ostrava. En triple saut, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a décroché l'or avec un bond de 17,20 m. Il devance l'Allemand Max Hess, 16,97 m, et le Français Melvin Raffiné, 16,71 m. Vainqueur de la dernière édition et annoncé favori, l'Américain Christian Taylor a fini cinquième avec 16,36 m. Hugues Fabrice Zango poursuit ainsi sereinement sa préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, où il est beaucoup attendu. De son côté, l'Ougandais Jacob Kiplomo est devenu le septième meilleur performeur de tous les temps sur 10 000 mètres en parcourant la distance en 26 minutes 33 secondes. Kiplomo, 20 ans, champion du monde de semi-marathon en 2020, a survolé la course et pulvérisé son record personnel qui datait de 2016, 27 minutes 26 secondes. Le record du monde est détenu depuis le 7 octobre 2020 par son compatriote Joshua Cheptegei, 26 minutes 11 secondes.
Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, troisième jour de la grève des travailleurs de la fonction publique à Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Le mouvement de cinq jours est bien suivi, créant des tensions entre la puissante centrale syndicale du Nigeria et le gouverneur de l'État. D'Abuja, notre correspondant Gilbert Tamba.
« Des centaines de milliers de travailleurs de la fonction publique de l'État de Kaduna dans les rues de la ville depuis lundi. La grève de 5 jours est lancée par la puissante centrale syndicale du pays, la NLC. Les manifestants protestent contre le plan de réforme du gouvernement de l'État dans le récent licenciement de masse de travailleurs. Au deuxième jour de la manifestation, des violences ont éclaté entre les manifestants et les autorités de l'État de Kaduna. À l'origine, cette déclaration du gouverneur de l'État de Kaduna, Nasir Ahmad El Rufai, contre le président du syndicat nigérien des travailleurs de la fonction publique, Ayuba Waba.
We'll bring him to justice. We are looking for him. He should report to the nearest police station.
Nous allons le traduire devant la justice. Il est recherché. Il doit se rendre au service de police. Il sera jugé pour sabotage économique. Il n'y aura pas de pardon. Ils ont dépassé les limites. Cela ne va rien changer et nous n'allons pas revenir sur notre décision. Et c'est tout.
Sa déclaration n'a pas empêché la manifestation et la réaction du vice-président de la centrale syndicale n'a pas également tardé. Amechi Asugwin.
Nous avions appris cela comme des rumeurs que le gouverneur El Rufai est devenu un inspecteur général de la police pour déclarer des gens recherchés. Cela n'intéresse que lui si vraiment il pense comme ça. Donc nous croyons que ce sont de fausses rumeurs. Nous ne serons pas intimidés par ces rumeurs.
Pour l'avocat Atajuba Abodji, il n'y a pas de doute. La constitution du Nigeria autorise les travailleurs de revendiquer leurs droits légitimes.
Je dirais que le gouverneur, en tant que chef des forces de sécurité, il est le chef en charge des forces de sécurité de l'État. Donc, si quelque chose se passe, il a le droit de s'exprimer. Mais déclarer quelqu'un recherché est une procédure légale, à mon avis. Seule une autorité peut inviter une personne, mais pas le gouverneur. S'il a un problème, il doit aller à la police.
Le gouverneur de l'État de Kaduna qui menace de limoger tous les fonctionnaires qui participent à la grève. La manifestation s'est poursuivie et le syndicat n'entend pas baisser ses bras jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Son président Ayuba Waba persiste dans sa démarche.
Ce qui se passe est un abus de pouvoir. Les Nigériens ont maintenant compris la cause de notre combat. Ce n'est pas un fait nouveau ni extraordinaire. C'est pourquoi nous avions décidé que cette première action de 5 jours va se limiter à Kaduna d'abord. Nous sommes encore là et nous allons continuer le mouvement pour les 5 prochains jours.
Les autorités fédérales appellent les deux parties à retourner à la table des négociations pour résoudre la crise. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la nouvelle montée de tensions au Moyen-Orient. Entre bombardements intensifs de l'aviation israélienne sur Gaza et des tirs de roquettes sur l'État hébreu, la communauté internationale s'inquiète sans toutefois être en mesure de se faire entendre. Cette dernière crise remet sur la table la question des expulsions de familles palestiniennes à Jérusalem-Est et les constructions israéliennes en Cisjordanie. Avec nos invités, nous analyserons cette crise entre Palestiniens et Israéliens, ainsi que ses implications régionales et internationales. Ce sera ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Au Bénin, Cotonou veut amplifier son activité dans le secteur du tourisme et cela passe par vos assiettes. Dans la capitale économique, une jeune autodidacte enfile son tablier pour des plats traditionnels qui font la fierté des Béninois. La gastronomie au Bénin avec Narikaline Lopi.
Faire le plein de produits frais dans les allées de ce marché de Fidjrossé à Cotonou, Gloria Koessi Govor, casquette bleue, est dans son élément. La Béninoise est passionnée de cuisine. Son défi, mettre à l'honneur les plats traditionnels du pays.
Bonjour.
Bonne arrivée.
Merci. Tomato. 300 millions.
Alors là, je vais prendre la tomate, oignon, ail, gingembre. Je vais prendre du goussi également.
De quoi faire une sauce amant vivée au goussi, l'une des préparations les plus plébiscitées par les Béninois.
Alors là, il nous reste les feuilles, les épinards à acheter.
Gloria met un point d'honneur à valoriser les productions des maraîchers locaux. Elle nous entraîne dans ce jardin. La jeune femme y prend en quantité des épinards nécessaires pour le plat.
Il faut d'abord préparer les feuilles. Parce que ça a un goût en fait très amer. Donc il va falloir d'abord préparer une fois à l'eau bouillante pour pouvoir diminuer un peu le goût amer.
Il est temps de passer à la cuisine. Son tablier enfilé, Gloria commence par s'occuper des épinards. Ses gestes précis sont un héritage familial.
J'ai grandi avec ma mémé, avec ma grand-mère. Donc tout a commencé à ses côtés. Elle m'a donné le goût de la cuisine, le goût des mets béninois, comment les préparer, comment aller au marché.
Et depuis, Gloria a fait du chemin. L'autodidacte a créé le festival gastronomique ZA, qui aura sa 5e édition en novembre prochain. Le but, faire connaître la multitude des saveurs du Bénin.
Elle varie en fait d'une région à une autre. Elle varie d'un village à un autre. Ce plat, par exemple, que je suis en train de préparer, la manière dont ça se fait au sud du Bénin, ce n'est pas forcément de cette même manière que ça se fait au nord ou au centre du Bénin. Et là, on va plus entrer dans les pratiques de l'art culinaire.
Un art culinaire que Gloria maîtrise déjà à la perfection. Après avoir plongé les feuilles dans l'eau bouillante, dans la sauce tomate, on fait revenir piment, gingembre, feuilles de laurier et sésame. Avant d'y ajouter le poisson fumé et bien sûr, les épinards. Pour cette cuisinière, la gastronomie béninoise mérite d'être plus connue.
En parler, vous savez, moi, mon objectif, en fin de compte, c'est qu'on inscrit, pourquoi pas, un mets béninois sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pourquoi pas?
Un pari déjà gagné dans les assiettes.
Alors, verdict?
Pas très bon. J'ai une note de 9,10.
Merci.
Des encouragements qui poussent Gloria à voir plus grand. Avec deux associés, elle s'apprête à ouvrir un musée consacré à l'histoire culinaire du Bénin. Ndari Kalinglopi pour VOA Afrique, Cotonou.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Gabon, le cyclisme n'est pas la discipline sportive la mieux lotie. En l'absence de structure de formation des coureurs, s'ajoute le manque de moyens et l'irrégularité des compétitions nationales. Le pays s'est pourtant doté d'une course cycliste internationale baptisée Amissa Bongo Ondimba. Du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement a annulé la 16e édition de l'épreuve initialement prévue en début d'année. On fait le point à Libreville avec notre correspondant Ismaël. On fait le point à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
La seule compétition organisée par le Gabon est la Tropicale Amissa Bongo, mais elle ne suffit pas encore à structurer une équipe. Il n'y a pas une politique claire de la petite reine. Abraham Olano, entraîneur de l'équipe cycliste du Gabon.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'objectif du ministère ou qu'est-ce que c'est l'objectif de la fédération. L'objectif de les coachs, c'est que d'ici 10-20 ans, quand avec que les coachs ya n'est pas ici, quelqu'un va dire, ici, sont venus en espagnol. Abraham Olano a fait un projet de sport et regardez, les coups d'affaires, un travail de futur.
Ce travail pour le futur, initié depuis 2016 par le technicien espagnol, est visiblement parsemé d'embûches. Freddy Koula est un chroniqueur sportif habitué de la course à Amissa Bongo.
Il a fait une sélection quand il est venu en 2015. Enfin, je t'explique. Il y avait justement une ou deux compétitions qui avaient été organisées en interne. Il a lui-même fait une détection. Il a pris un lot de 6-7 coureurs. Ils sont partis en Espagne. Ils ont travaillé 3 mois, 4 mois. Ils sont venus dans une tropicale 2016 qui a été correcte. Ensuite, tout s'est liquéfié. Il n'y a pas eu de compétition nationale. Parce que c'est comme ça que ça marche depuis quelques années sur la tropicale. Ces mecs-là, ils font la tropicale en janvier. On les abandonne pendant 11 mois. Et après le 12e mois, on les appelle en disant il y a la tropicale, pensez au pays, vous êtes des patriotes, etc.
Godefroy Ganamba est justement le capitaine de l'équipe cycliste et panthère du Gabon. Il confirme ses faits.
C'est déplorable que la tropicale est organisée au Gabon et il n'y a pas les moyens pour pouvoir mettre l'équipe gabonaise dans les meilleures conditions. Alors que les équipes qu'on invite sont en plein dans le travail. Vous convenez avec moi que l'équipe gabonaise n'a pas eu de compétition cette année.
15 ans après sa création, la Tropicale Amissa Bongo n'a pas encore été remportée par un Gabonais. À peine croyable pour une bonne partie de l'opinion. Clémentine Minga est une spectatrice des courses cyclistes.
Je pense que les Gabonais doivent rattraper les autres et se mettre à niveau, avoir plus d'entraînement pour permettre de rejoindre les autres, en fait, les internationaux.
Armel Djo Mougou, journaliste.
Mais pour faire du cyclisme, il faut de l'argent. Il faut s'investir. Le vélo, à lui seul, il coûte les yeux de la tête. C'est pas un sport comme le football. À la limite, c'est vrai que bon, lorsqu'on monte une équipe de football, ça demande d'autres charges. Mais un vélo, il faut l'entretenir. Il faut avoir au moins deux vélos, un vélo d'entraînement, un vélo de compétition. Il faut avoir des écoles. Il faut pouvoir nourrir, sportivement parlant, ces derniers, donc ces athlètes-là. C'est autant d'aléas, effectivement, qui font en sorte que aujourd'hui le Gabon ait du mal à décoller véritablement sur le plan du cyclisme.
Sollicité par nos soins pour une réaction officielle sur les difficultés du cyclisme gabonais, aucun responsable n'a donné suite à notre requête. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Bienvenue à tous. Les équipes prenant part à la Basketball Africa League ont commencé leur deuxième sortie dans la phase de groupe. Opération confirmation pour les Tunisiens de l'US Monastir face aux Nigériens de Rivers Hoopers, tombés en match inaugural devant les Patriots dans le groupe A. Bien avant, dans le groupe B, les Camerounais de FAP feront face aux redoutables Angolais de Petro de Luanda. Dans l'autre match de cette poule B, en fin de soirée, la mission s'annonce compliquée pour les Maliens de l'AS Police devant les Marocains de l'AS Salif.
Ici aux États-Unis, de nouvelles données montrent que le taux de natalité a considérablement baissé au cours de l'année écoulée, peu importe le groupe ethnique ou l'âge. Les experts imputent une partie de ce déclin aux incertitudes liées à la pandémie de coronavirus, mais cela reflète aussi les tendances de longue date observées dans les pays développés. Un reportage de Laurel Baumann, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
De nouvelles données montrent que l'année dernière, le taux de natalité aux États-Unis a subi sa plus forte baisse en une seule année depuis près de 50 ans. La baisse de 4% des naissances pour toutes les races et dans presque tous les groupes d'âge, même les femmes à la fin de leur trentaine, qui avaient vu leur taux de natalité augmenter ces dernières années. Brady Hamilton est l'auteur principal de ce rapport.
But between 2019 and 2020,
entre 2019 et 2020, nous avons constaté une baisse de 4% du nombre de naissances et du taux général de fécondité, ce qui est un peu hors du commun.
Les experts disent que la pandémie de Covid-19 a sûrement contribué à ce déclin l'année dernière, mais accusent également l'anxiété liée à la conjoncture économique, car l'assurance maladie de nombreux Américains dépend de leur employeur.
Avoir des enfants coûte très cher et la sécurité de l'emploi est certainement un facteur. Je pense que la pandémie est un effet aggravant qui a renforcé l'incertitude sur la sécurité de l'emploi.
Deirdre Miller est une infirmière en gynécologie spécialisée en fertilité. Elle est également une maman et estime que le budget d'un nouvel enfant pèse dans l'esprit des futurs parents.
L'une des principales questions que nous entendons des patients est de savoir combien ils vont être facturés après l'accouchement et combien vont leur coûter les examens comme des échographies. En fait, j'ai eu ma fille l'année dernière, en mars. Elle a donc 14 mois maintenant. Bien sûr, le coût était un facteur énorme. J'aurais obtenu de meilleurs soins si j'avais été dans un hôpital plus grand, mais c'était l'une de mes préoccupations majeures. Allais-je recevoir cette énorme, vous savez, facture de 30 000 ou 36 000 dollars pour avoir été une patiente là-bas?
Le fait que les factures sont imprévisibles est un facteur, mais la situation est globalement la même dans les pays développés dotés de soins de santé universels. Philippe Levine est professeur d'économie au Wesley College.
Il y a quelque chose de systématique dans le développement des économies modernes où les préférences en matière de procréation changent. Vous savez que les femmes veulent être plus engagées dans la population active. Ce n'est pas vraiment cohérent avec le fait d'avoir une famille nombreuse. C'est ce genre de changement d'habitude, je pense que c'est une meilleure explication étant donné que c'est tellement universel dans les pays développés.
Ces tendances de baisse de la natalité ont des effets à long terme. Dans les années 50, le baby boom d'après-guerre aux États-Unis et dans d'autres pays a affecté la politique, l'économie et la culture. Les chercheurs affirment que ce déclin 5-4-3-2-1-0. Les chercheurs affirment que ce déclin actuel des naissances aura probablement un effet important à long terme.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Segudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.